Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 10 janvier 2025. En Guinée, les militaires au pouvoir ont ordonné la cessation des activités des mouvements politiques non autorisés. Au Soudan, le gouvernement a introduit de nouveaux billets, mais cette mesure exclut une grande partie de la population. La ville de Ouida accueille depuis jeudi au Bénin la deuxième édition des Voodoo Days. Ici aux États-Unis, Donald Trump obtient une dispense de peine dans l'affaire Stormy Daniels.
Nous avons une situation tout à fait inédite. C'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président qui rentrera en fonction en 10 jours sera un requis de justice.
Jean-Germain Gros de l'Université du Missouri va nous expliquer les implications de ce verdict dans la partie magazine. En Californie, les incendies qui ravagent la région de Los Angeles ont fait 10 morts et les autorités s'attendent à voir le nombre de décès s'alourdir. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. On commence par le journal. On commence par l'actualité américaine. Donald Trump a été officiellement dispensé de peine ce vendredi dans l'affaire des paiements cachés à une star des films X, une sanction symbolique mais historique qui fait de lui le premier président élu du pays condamné au pénal. Jacques Aristide.
Donald Trump a comparu à distance sur un écran vidéo, deux drapeaux américains derrière lui lors de cette audience à la cour pénale de Manhattan ce matin. Le président élu, qui va être investi dans 10 jours, a fustigé une honte pour le système, se disant totalement innocent et rappelant qu'il avait remporté le vote populaire à l'élection présidentielle du 5 novembre dernier. Après l'avoir remercié, le juge Juan Merchan a évoqué les circonstances uniques et exceptionnelles de la situation. Il a ensuite prononcé une dispense de peine, la seule sentence possible à ses yeux, et a souhaité à Donald Trump, je cite, « Bonne chance pour votre second mandat ». Fin de citation. Jusqu'au dernier jour et jusque devant la Cour suprême à Washington, les avocats du 45e et bientôt 47e président américain ont multiplié les recours en brandissant son immunité présidentielle passée et à venir afin d'empêcher le juge de sanctionner leurs clients. Mais hier soir, la plus haute juridiction des États-Unis a rejeté une ultime requête, avec le prononcé de cette peine la plus faible possible, plus de 7 mois après avoir été déclaré coupable par un jury unanime. Donald Trump va retourner le 20 janvier à la Maison-Blanche avec l'étiquette d'un repris de justice.
Le feu continue de ravager les abords de Los Angeles, surplombé d'une âcre fumée blanchâtre. Les principaux incendies restent hors de contrôle ce vendredi dans la mégapole californienne qui recense désormais au moins 10 morts et où des renforts militaires ont été déployés. John Lydon.
Ça ressemble à l'apocalypse, confie Oren Waters devant sa maison réduite en cendres dans la ville d'Altadena, au nord de Los Angeles. Revenir pour voir ça, c'est inimaginable. Des pans entiers de la deuxième ville des États-Unis étaient en ruine ce vendredi avec plus de 10 000 bâtiments détruits selon les services d'incendie de l'État. Au nord-ouest de Los Angeles, le foyer qui dévore le quartier huppé de Pacific Palisades avec ses villas des multimillionnaires et des célébrités entre Malibu et Santa Monica n'était toujours pas si construit, malgré l'apport d'hélicoptères larguant de l'eau. Après une accalmie, les vents sont revenus et de nouveaux incendies ont continué à se déclarer. Les flammes ont jusqu'à présent brûlé plus de 14 000 hectares à Los Angeles, selon le service des incendies de l'État de Californie. Plus de 180 000 personnes ont été évacuées. Le bilan est désormais d'au moins 10 morts. Le président américain Joe Biden a déploré des incendies très étendus et dévastateurs lors d'une réunion de crise à quelques jours de la fin de son mandat. Ces incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés, AccuWeather estimant le total des dommages et des pertes entre 135 et 150 milliards de dollars.
Au Venezuela, le président Maduro a prêté serment ce vendredi pour un troisième mandat de 6 ans lors d'une cérémonie qualifiée de coup d'État par l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle de juillet. Les États-Unis ont dénoncé le simulacre de l'investiture de Nicolas Maduro
et imposé de nouvelles sanctions contre Caracas, portant notamment à 25 millions de dollars la récompense pour toute information permettant de traduire le dirigeant vénézuélien en justice. Le Parti libéral du Canada a annoncé jeudi soir qu'il choisirait au début du mois de mars le successeur de Justin Trudeau, le premier ministre canadien. M. Trudeau a annoncé lundi qu'il quitterait ses fonctions de chef du gouvernement dès que sa formation politique lui aurait trouvé un successeur, alors que des élections sont pour l'instant prévues au plus tard fin octobre 2025. Les enquêtes d'opinion montrent que les libéraux au pouvoir seraient nettement battus par le Parti conservateur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, le groupe djihadiste GSIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué aujourd'hui dans un communiqué l'attaque ayant tué au moins 28 soldats béninois mercredi dans le nord du pays à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso. Cette attaque, la plus meurtrière qu'ait connue l'armée béninoise depuis longtemps, a eu lieu mercredi en fin de journée au niveau de la triple frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Les autorités militaires en Guinée ont ordonné jeudi la cessation des activités des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable après avoir annoncé la tenue d'élections cette année. Ces partis sont exhortés à soumettre une demande d'autorisation pour être légalisée. Nani Talani.
Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Kondé, dit regretter la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. Il est donc demandé à tous ces mouvements de cesser immédiatement leurs activités et de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès de leur ministère pour leur existence légale. Cette mesure concerne notamment 54 partis suspendus jusqu'au 31 janvier 2025. Les institutions nationales et internationales sont exhortées à ne plus collaborer avec ces partis. Cette annonce intervient dans un contexte de tension croissante après une manifestation de l'opposition qui réclame la fin du régime militaire. Malgré leurs engagements, les militaires n'ont pas respecté leur calendrier initial pour la transition vers un gouvernement civil. Cependant, le gouvernement a annoncé qu'un référendum pour une nouvelle constitution pourrait se tenir en mai, ouvrant la voie à des élections présidentielles et législatives avant la fin de l'année.
Au Burkina Faso, l'ancien ministre des Sports, Dominique Marie André Nana, a été mis en examen pour fraude liée à des fonds publics avec d'autres membres du régime de l'ex-président burkinabé, Roch Marc-Christian Kabore. Le procureur a notamment évoqué des détournements liés à la réhabilitation du stade du 4 août à Ouagadougou avec des surfacturations et blanchiment de capitaux et des biens ont été saisis. Au Soudan, la décision du gouvernement d'introduire de nouveaux billets de banque stimule les dépôts bancaires et contribue à l'effort de guerre selon les autorités, mais des critiques estiment que la mesure exclut des millions de personnes du système financier. Alexandrine Ollognon.
Contrairement aux précédents échanges de devises, pour recevoir les nouveaux billets de 500 et de 1000 livres, les Soudanais ont dû déposer leurs anciens billets dans une banque et sont ensuite autorisés à retirer quotidiennement des montants limités, ce qui permet d'injecter dans le système des fonds provenant d'une société en grande partie non bancarisée. Le ministre des Finances, Djibril Ibrahim, a déclaré que l'initiative lancée en décembre, dans le but explicite de rendre sans valeur les fonds pillés par le FSR, a été un succès, bien qu'il n'ait pas donné de chiffres sur le nombre de livres soudanais déposés. Cela aide le secteur bancaire, et lorsque vous aidez le secteur bancaire, cela aide l'État à financer des projets, y compris l'effort de guerre et les activités productives, a déclaré Ibrahim lors d'un entretien accordé à l'agence Reuters cette semaine. Depuis le début de la guerre, lorsque les soldats des forces de sécurité soudanaises ont pillé des dizaines de banques et bloqué l'agriculture, le gouvernement allié à l'armée a eu du mal à payer les salaires et à financer des biens essentiels, tels que les médicaments.
Au Nigeria, les autorités de l'État de Kano ont lancé une vaste opération visant à sortir de la rue plus de 5000 enfants livrés à eux-mêmes, un phénomène qui s'accentue avec la crise économique qui frappe le Nigeria depuis plus d'un an et demi. Et puis au Kenya, la Haute Cour a déclaré inconstitutionnelle la pénalisation des tentatives de suicide. La Commission nationale kenyane des droits humains a salué ce vendredi cette initiative.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
L'Éthiopie a lancé sa bourse vendredi. Celle-ci aidera les investisseurs à lever des fonds à long terme et à régulariser les marchés obligataires et interbancaires, selon des analystes. L'Éthiopie rejoint ainsi la vingtaine de pays africains disposant d'une bourse. Le Nigeria et les États-Unis ont signé un accord pour rapatrier 52,88 millions de dollars d'avoirs confisqués à un ancien ministre nigérian du pétrole et ses associés, a révélé vendredi le ministère nigérian de la Justice. 50 millions de dollars financeront l'accès aux énergies renouvelables. Les 2,88 millions de dollars restants seront alloués à l'Institut international pour la justice afin de soutenir la lutte contre le terrorisme en Afrique. Pour terminer, le Maroc a enregistré 17,4 millions de visiteurs en 2024, en hausse de 20% par rapport à 2023, ce qui a généré 104 milliards de dirhams en recettes touristiques, soit une hausse de 7% selon le ministère du Tourisme. Le tourisme représente 7% du PIB marocain et des milliers d'emplois directs.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Match décisif en Ligue des Champions CAF entre le MC Alger et le TP Mazembe ce soir.
Oui, les Congolais du tout-puissant Mazembe sont dos au mur et doivent s'imposer dans la capitale algérienne pour espérer atteindre les quarts de finale et poursuivre l'aventure dans cette Ligue des Champions. Les hommes de Lamine Diaye n'ont pris que 2 points en 4 matchs et occupent la dernière place du groupe A. Le MC Alger, lui, compte actuellement 5 points et occupe la 2e place du groupe A à 5 unités des Soudanais d'Al Hilal déjà qualifiés.
Amad Diallo prolonge à Manchester United jusqu'en 2030.
L'annonce est faite par le club de l'ailier international ivoirien de 22 ans. Le contrat précédent d'Amad Diallo courait jusqu'à la fin de l'exercice 2024-2025 avec une clause permettant au club de le prolonger d'une année supplémentaire. Il restera maintenant à Man U jusqu'en 2030, une prolongation logique de contrat selon Ahmed Bakayoko, journaliste à la radio-télévision Al Bayan, notre station partenaire à Abidjan.
Je pense qu'Amad Diallo est dans une phase charnière de sa carrière et il est important pour lui d'être conforté avec le statut qu'il vient d'avoir dans le club, avec ses enchaînements de matchs et tout ça, qu'il soit conforté par le bord mancunien. Alors cette prolongation de contrat, c'est un message fort à son endroit pour lui dire qu'il est maintenant une valeur sûre du club et que le club compte sur lui. Ruben Amorim a été pour beaucoup dans le déclic d'Amad Diallo. Je pense qu'il a créé une certaine connexion, il donne un certain confort à Amad Diallo qui lui permet d'évoluer en toute tranquillité. Il a gagné en automatisme, ça fait désormais 4 ans qu'il évolue au club. Il n'a jamais été au mieux de sa forme. Amad Diallo est devenu beaucoup plus mature sur le plan défensif. Ses phases offensives sont devenues beaucoup plus encadrées avec une production à la hauteur des attentes du club. Il est décisif dans les grands matchs. Voilà ce qu'on attendait de lui. On cherchait un attaquant capable de faire la différence dans les moments opportuns. Je pense qu'avec le coup de mou, la disette que connaît en ce moment Marcus Rashford, Amad Diallo pour moi est devenu l'homme fort de l'attaque mancunienne.
Emmanuel Agbadou a lui été recruté par les Wolves, toujours en Premier League. Le club anglais a annoncé la signature du défenseur ivoirien en provenance de Reims pour environ 20,3 millions de dollars. Il a signé un contrat de 4 ans et demi avec une option de 12 mois supplémentaires. De nouveau, Ahmed Bakayoko.
Je pense que c'est une bonne destination pour Emmanuel Agbadou après 2 années régulières à jouer en Ligue 1 française. C'est le moment pour lui de découvrir un autre chapitre de sa carrière et un challenge beaucoup plus excitant que peut-être le championnat anglais. On le sait, c'est un championnat qui est très physique où les joueurs, pour la plupart, sont très athlétiques et n'ont pas peur de mettre le pied sur le ballon avec le crampon. Et donc, pour Emmanuel Agbadou, je pense que c'est un espace idéal pour s'épanouir parce que c'est un défenseur qui est reconnu pour son engagement très physique. Et Wolverhampton, pour moi, c'est une destination plutôt acceptable du point de vue du jeu et surtout du profil d'Emmanuel Agbadou. C'est une équipe qui n'est pas forcément composée de plusieurs stars, donc il peut s'intégrer.
Ahmed Bakayoko, journaliste à la radio-télévision Al Bayan, notre station partenaire à Abidjan.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Condamné au pénal, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a été officiellement dispensé de peine ce vendredi par un juge new-yorkais dans l'affaire des paiements cachés à une star de films pornographiques. À exactement 10 jours de son retour à la Maison-Blanche, le républicain a dénoncé une honte pour le système, se disant totalement innocent et rappelant qu'il avait remporté le vote populaire à l'élection présidentielle du 5 novembre dernier. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri-Saint-Louis.
Bon, nous avons une situation tout à fait inédite. C'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président qui rentrera en fonction en 10 jours sera un repris de justice. Vous savez que dans certains États des États-Unis, Trump, qui a été condamné par un juge comme un repris de justice, ne pourrait même pas voter. Il aurait perdu son droit de vote. Maintenant, il va devenir président des États-Unis. Donc, c'est-à-dire il sera responsable de l'exécution des lois du pays. Donc, voilà une situation assez inédite, pour ne pas dire absurde. Mais c'est la réalité du moment.
Donald Trump a dénoncé ce qu'il appelle une honte pour le système. Dans quelle mesure les accusations d'instrumentalisation de la justice, selon Donald Trump, par ses rivaux politiques, reflètent-elles une politisation croissante du système judiciaire aux États-Unis? Et quel pourrait être l'impact sur la confiance des citoyens envers ces institutions?
Bon, la réaction de M. Trump est tout à fait prévisible. Mais je ne crois pas qu'on peut accuser la justice américaine d'avoir été instrumentalisée. Regardons ce qui s'est passé. M. Trump a été trouvé coupable par des citoyens américains, par des membres d'un jury, okay, qui sont des citoyens ordinaires. Donc, ils ont vu les accusations portées contre M. Trump, ils ont examiné ces accusations et ils ont décidé que le procureur, n'est-ce pas, a raison, a des preuves solides. Donc, c'est sur cette base que le jury a décidé de rendre son verdict, de condamner M. Trump, de le juger coupable. Donc, on ne peut pas parler d'instrumentalisation du système judiciaire. En plus, le juge a été assez généreux envers M. Trump. Si la justice était instrumentalisée, eh bien, le juge aurait dû être beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme envers M. Trump. Donc, je crois qu'on ne peut pas parler d'instrumentalisation de la justice. Bon, quant à la confiance que le pouvoir, que le public peut avoir dans la justice américaine, eh bien, ce n'est pas ce verdict qui va influencer, disons, ce que les Américains pensent de la justice américaine. Déjà, ils ont une opinion assez réduite, pour ne pas dire faible, de la justice américaine, du système judiciaire américain. Donc ce n'est pas ce verdict qui va nécessairement influencer leur position. Ça a déjà commencé depuis des années.
Jean-Germain Gros, professeur de sciences politiques à l'Université du Missouri-Saint-Louis. Malgré un cessez-le-feu, le groupe du M23 soutenu par le Rwanda continue d'étendre son contrôle en RDC. Les experts accusent les rebelles de piller les ressources minières des zones qu'ils occupent. Les rebelles exportent 120 tonnes de coltan chaque mois. Cette exploitation se concentre principalement sur le site minier de Rubaya. Pour en parler, John Lindon a joint en Afrique du Sud Hubert Kabasubabo, écrivain et ancien gouverneur du Kasaï occidental.
Et bon, de manière générale, on parle de cette production essentiellement du coltan, dans les zones occupées par les rebelles et qui sont les cargaisons qui sont envoyées vers le Rwanda. On parle de plus ou moins 150 à 200 tonnes de production de coton envoyées vers le Rwanda qui vont, n'est-ce pas, augmenter les quantités de production de coton exportées par les Rwandais. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans parce que depuis déjà, je crois, 2023, on avait indiqué, plusieurs autres experts avaient indiqué que les Rwandais produisaient plus de coton par rapport au Congo. Donc les Rwandais produisaient dans les 2070 tonnes de coton, alors que la RDC produisait dans les 1800 tonnes plus ou moins.
Toujours selon ce rapport, selon les experts de l'ONU, le M23 prélève d'importantes taxes sur les activités minières, générant environ 800 000 dollars par mois uniquement par la taxation du coltan. Comment le gouvernement congolais fait-il face à cette situation et comment régler ce problème?
Mais bon, on est dans une situation, écoutez, les experts me semblent trop idéalistes. Hein. On est dans un contexte de guerre où il y a des... l'AFC, l'Alliance pour le Congo de Corneille Nangaa, avec les troupes armées de M23 qui ont occupé un territoire. Et dans ce territoire-là, il y a un système économique, il y a une production qui se passe. Il y a des véhicules, comme j'ai dit, le Rwanda, c'est tout un réseau, il y a interconnexion en fait en termes de transactions internationales entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et donc, on est dans un contexte de guerre, il y a l'économie de guerre à la fois pour le M23 et l'AFC, mais il y a aussi l'économie de guerre dans d'autres zones comme à Ituri, où il y a des zones qui sont contrôlées par l'armée congolaise, où il y a, par exemple, les FDLR, les troupes burundaises, mais également les Ouazalendo qui se livrent aussi à l'exportation de coltan, non seulement des coltan, mais de wolframite, de pyrochlore, de l'or également.
En un mot, vous parlez de guerre. Comment mettre fin à la guerre dans cette région du pays?
Il s'agit d'abord, vous savez, en sciences politiques, il y a comme un dit sur les théorèmes, c'est de la solidité interne, de la cohésion interne que dépend la vulnérabilité externe. Il faut qu'il y ait cohésion interne. Il faut que le problème en termes de la crise de légitimité, mais aussi en termes de la crise de bonne gouvernance, la régression de la démocratie en RDC, cette dimension interne doit être résolue de manière multipartite en incluant ceux qui font l'opposition armée, la société civile, mais également les autres opposants. Donc si on parvient à résoudre le problème à l'interne, en ce moment-là, il y a une sortie diplomatiquement aux forces régionales.
Hubert Kapso, écrivain et ancien gouverneur du Kasaï occidental.
Nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
La ville de Ouida accueille depuis jeudi la deuxième édition des Vodun des Onins, un événement de haute facture pour la promotion et la valorisation du Vodun, ce patrimoine culturel et historique que le Bénin a en partage avec de nombreux pays du monde. Sur place à Ouida, notre correspondante Ginette Fleur Adandé pour le point première journée.
Comme si Ouida n'avait fait que veiller, attendant les premières heures du jeudi 9 janvier 2025 pour entrer dans la célébration de la deuxième édition des Vodun Days. Pour cette édition, il y a bien plus de monde que l'année dernière. Il est attendu encore plus de monde pour la grande cérémonie Vodun. Eloi Agbo est l'administrateur de l'emblématique place des Pitons.
C'est notre génération, c'est notre divinité. Quand on vient ici, dans l'aspect culturel, on fait faire parcourir le temple. Donc voilà, donc nous avons cinq divinités dans ce temple. Nous avons la divinité Dangé, nous avons le Dangé Loco, le Dangé Gou, le Dangé Lisha et le Roro. Donc voilà à peu près l'histoire de ce temple pour ne pas aller plus loin.
Les Vodundaises sont d'abord une occasion de célébrer les racines sociales et culturelles du Bénin, dont le Vodun fait partie intégrante. Bien que cette pratique spirituelle soit souvent perçue à travers le prisme du mysticisme et des rites religieux, l'événement se concentre davantage sur l'aspect culturel et patrimonial de cette tradition. Le professeur Marion Kapo est le président du comité des rites vaudou.
Le vaudou est une religion. C'est d'abord ça. Et en tant que religion, le vaudou est un humanisme. Protège l'homme, les espaces. Le vaudou protège les espèces animales, forestières et autres.
Qui est-ce qui vous dit que le vaudou tue? Est-ce qu'on vous a appris que dire qu'on pratique le vaudou, que c'est mauvais, le vaudou est méchant, le vaudou n'est pas bon? Ce sont des insultes de ce genre que l'on a mises sur le vaudou pour décrédibiliser, dévaloriser le vaudou.
Sur le terrain, les populations accueillent avec fierté cette édition célébrant la promotion du vaudou comme vecteur de développement.
C'est d'abord une fierté pour nous en tant que Béninois et une grande joie de pouvoir voir une très belle ville se développer et changer de visage grâce au Vaudou Days qui a déjà commencé depuis l'année dernière. En tant qu'économiste, je dois d'abord primer d'abord sur l'économie du pays et quelle que soit la manière dont nous allons partir, l'essentiel c'est que le Bénin se développe, le Bénin soit un pays émergent. Donc.
Jeudi, les groupes Kassav et Toufan ainsi que de nombreux artistes béninois ont fait danser le public. Ce vendredi, le ballet folklorico de Bahia, une troupe emblématique du Brésil, offrira également une belle performance. L'inauguration de l'arène du Vaudou sera l'une des activités phares de ces Vaudou Days. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Le gouvernement ghanéen a lancé un appel à la diaspora africaine afin qu'elle vienne s'installer au Ghana à travers un programme d'octroi de citoyenneté. Le pays y voit un avantage pour l'économie nationale et se concentre donc sur les opportunités d'investissement pour ceux qui souhaitent s'installer. Thierry Kaoré.
Dans le salon de leur maison, Keisha Bowers et Damon Smith, un couple afro-américain se livre à un jeu de cartes avec leurs deux enfants. Une scène qui rappelle la vie qu'ils ont laissée derrière en Floride. En 2023, toute la famille s'est installée au Ghana à la recherche d'un pays où elle se sentirait plus à l'aise. Bowers et Smith font partie des 524 membres de la diaspora noire qui ont obtenu la citoyenneté ghanéenne lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en novembre 2024. Keisha Bowers explique que sa famille et elle-même étaient constamment exposées à des agressions et à des traumatismes aux États-Unis.
En Amérique, un homme noir avec des locks qui est très grand pour son âge est traité comme une menace. Dans les écoles, il est maltraité. La discipline est toujours la première étape dans le traitement de mon fils. On lui dit « tu vas avoir une retenue » sans la moindre explication. J'ai découvert que mon fils était autiste. J'ai dû examiner de manière indépendante ce qui se passait et les symptômes et je l'ai fait diagnostiquer.
Deja Gordon, une autre Africaine américaine, fait partie de celles qui ont bénéficié de la citoyenneté ghanéenne. Elle a visité le Ghana pour la première fois en 2015 et s'y est installée définitivement en 2019 et a ouvert un restaurant mobile qui vend de la nourriture jamaïcaine.
Cela fait plaisir de se retrouver, d'avoir un lien avec un pays africain. En tant qu'Africaine américaine, en tant qu'Américaine noire, n'est-ce pas? Parce qu'en Amérique, nous n'avons pas d'autres racines que l'Afrique. Et d'avoir ce lien ici, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien.
Festus Aoussan, du Centre d'Action pour les Migrations, une organisation locale à but non lucratif, a déclaré que les avantages de la citoyenneté ghanéenne vont bien au-delà de l'aspect économique.
Ce lien qui soulage à jamais ces personnes qui ont lutté pendant des années pour savoir leur origine. Pourquoi sont-elles noires? D'où viennent leurs arrière-arrière-grands-parents? Ce type de guérison spirituelle et de connexion peut être plus stimulant que les affaires.
Le Ghana a déjà accordé la citoyenneté à des centaines de personnes de la diaspora noire. Madame Bowers a ajouté qu'elle était particulièrement reconnaissante d'avoir déménagé en Afrique parce que son défunt père, un panafricaniste qui rêvait de visiter le Ghana, n'a jamais pu le faire.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.